Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 13 janvier 1999 de 18 à 21h et en différé jeudi 14 janvier dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libre, vous pouvez adhérer à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos. Profitez-en bien. Ça va durer moins longtemps que les impôts. Mais si, de toute façon, il nous reste pas beaucoup de temps parce que...
Les temps sont proches.
Comme l'a dit mon excellent camarade Nostradamus, 1999, septième mois, viendra du ciel le grand roi des frayeurs. Donc c'est fini, on est au bout. On est au bout. Allez vite vous confesser, faites une confession complète, générale. Enfin, pour ceux qui pratiquent une religion où il y a de la confession, parce que les autres, évidemment. Mais il reste assez peu de temps, quand même.
Quand est-ce que vous allez nous inviter, le représentant de Nostradamus actuel ?
Bientôt, bientôt. Ah, très inquiétez bien. Pas. On va faire ça. Ce soir, émission sérieuse, diverse et conviviale.
Avec, ah oui, pour les convives, il y a des convives.
Avec Victoria.
Il n'y a pas assez de micro.
Victoria, Gérard Wedlich, bonsoir Gérard.
Bonsoir cher.
Qui est monté spécialement d'un lieu improbable, l'île d'Oléron, pour nous causer. Alex Chabanis, avec qui on parlera d'un sujet un peu nouveau ce soir, puisque je le fais venir toutes les semaines pour parler du traité d'Amsterdam et des multiples raisons qu'on a de ne pas y adhérer, mais comme d'autre part il est un spécialiste des jeunes, ce soir je vais plutôt l'interroger sur les jeunes, mais on parlera quand même d'Amsterdam. Daniel Raffard de Brienne, qui vient de publier un livre intitulé Pour en finir avec l'évolution, dont on parlera. Jean-Gilles Malirakis, qui est venu pour parler de son livre « L'histoire recommence toujours », parce que vous savez, nous, on vit un drame horrible. Moi, personnellement, ça ne me touche pas beaucoup, parce que j'écris pas beaucoup de livres, mais on ne peut pas parler de nos livres dans nos émissions, parce qu'on a gardé ce qui s'appelle une certaine décence. Donc, Malia, il a écrit un bouquin, les auteurs, les directeurs d'émissions disent « je ne vais pas inviter Malia », puisqu'il parle tout le temps sur Radio Courtoisie. Lui, il dit « je ne peux pas parler de mon livre », résultat, Radio Courtoisie ne parle pas du livre de Malia, ce qui est vraiment inadmissible. Donc j'ai décidé de rompre avec cette mauvaise habitude. Et
mais
puis,
les autres non plus, Serge.
Les autres non plus. Non, c'est vrai que Radio Libertaire a assez peu de raisons d'en parler. Radio Beurre non plus. Radio Gay, on voit pas bien.
Ah, c'est pas triste.
Ah, c'est pas triste. Rire et chanson, on n'a pas de raison d'en parler non plus.
Non, en fait, c'est un véritable service public que tu es en train de mettre en place.
Et voilà, absolument, je mets un service public. Non, on appelle ça Radio Rhubarbe, passe-moi le séné. Et puis le général Dièvre qui nous parlera du docteur Dor.
Oui, bonsoir. Voilà.
Juste avant qu'il aille en prison. Est-ce qu'il va finir par y aller en prison?
Il y est déjà allé, il oui, faut c'est le savoir. J'en parlerai si vous me donnez 3 minutes.
Mais avant, moi, toute honte bue, je parlerai de mes propres affaires et je rappellerai donc à notre auditorat sympathique que le 29 janvier 1999, donc 29-1-1999, je laisse aux spécialistes de la numérologie le soin d'en tirer les conclusions qu'ils voudront, le libre journal de la France courtoise, journal imprimé sur du papier, organise son dîner annuel traditionnel. traditionnel, puisque c'est la deuxième fois. Donc ça y est, c'est une tradition maintenant. Et alors, si vous voulez vous inscrire, ne perdez pas de temps, parce que on est limité en place. Donc, pour vous inscrire à ce dîner, qui sera placé sous la présidence de qui, je vous le donne en mille, du docteur Dor, parce que nous, on travaille comme ça, on est tout petit comité dans la série, passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné. J'invite le... S'il n'est pas en prison, d'ailleurs. S'il est en prison,
ça... Dieu ne plaise.
Bah, enfin, lui, il s'en... je crois qu'il supporte ça très bien. Ouais. Bon, il en profite pour évangéliser.
Il est aussi bien en liberté qu'en prison.
Bah, nous, on préfère qu'il soit dehors que dedans. Mais lui, quand il est dedans, il en profite pour évangéliser les Maghrébins. Les musulmans, pardon. Ce qui est très mal, c'est que c'est interdit. Hein. On n'a pas le droit d'évangéliser les musulmans. C'est une atteinte à leur liberté... personnel. Donc voilà. Alors s'il n'est pas en prison, il sera donc le président. S'il est en prison, ça sera probablement Madame le docteur Dor qui sera la présidente par intérim. Et donc ce dîner se passera le 29 janvier à partir de 20h. Et le prix du triangle, ben oui, c'est comme ça qu'on dit. Les vieux francs-maxes, c'est comme ça qu'il dit, est de 190 francs. Alors, il faut que je vous explique quand même que 190 francs, c'est un tout petit peu plus cher que ce que nous fait payer l'organisateur du dîner. Mais, une fois qu'on a fait le compte des envois de correspondance, des frais, tout, bon, voilà, on gagne pas d'argent. C'est pas fait pour gagner des sous, c'est fait pour être ensemble. Et c'est pas fait non plus pour en perdre, je vous le dis. Donc, si vous réservez et que vous ne venez pas, vous ne serez pas remboursé. C'est aussi simple que ça parce que l'hôtel qui nous reçoit nous fait payer... ferme et définitif. C'est-à-dire, si on réserve 300 places, on paye pour 300 places, et s'il y a 200 personnes qui viennent, ils ne nous remboursent pas. Donc, on ne peut pas rembourser. Voilà, tout ça est très compliqué, très ennuyeux. Mais si vous voulez participer à ce dîner, qui est en général fort sympathique, enfin, c'est la tradition qu'il soit fort sympathique, c'est-à-dire que la première fois que c'est déroulé, c'était bien, vous téléphonez dès demain à ma charmante épouse, qui vous permettra de faire sa connaissance, qui s'appelle Danielle de Bekech. Vous téléphonez au 01 45 23 51 01. J'espérais que Malirakis prendrait le relais, mais visiblement, il n'a pas retenu de mémoire notre numéro de téléphone. Donc 01 45 23 51 01, et vous dites, je réserve 200 places, 150 places, enfin c'est de selon vos moyens, pour le dîner. Et vous envoyez la somme y afférente, et par retour, vous recevez une confirmation.
C'est combien la somme ?
190 francs. C'est moins cher que le dîner de Radio Courtoisie. Mais c'est moins chic aussi. Enfin, c'est... Il y a moins de monde. Puis c'est... Enfin, c'est... il n'y a pas tous les gens bien qu'il y a au dîner de Radio Courtoisie. Il n'y a que... C'est moins bien, quoi, voilà. Donc c'est moins cher, forcément. Et puis, mais c'est sympathique quand même. Et vous aurez en prime un formidable menu illustré par Marie-Claude Monchaud, qui est une très très bonne dessinatrice, et qui travaille d'ailleurs... au Libre Journal de la France Courtoise. C'est très bien ce qu'elle fait. Moi, j'aime beaucoup lire ses articles et regarder ses dessins. Voilà, 45-23-51-01, dès demain, 14h, et à partir de demain, tous les jours à 14h, à partir de 14h, vous pouvez téléphoner. Je sens que je vais tousser ce soir. Je préviens, Malia, tu prendras le relais si je suis...
Tu veux mon avis sur ta toux ?
Oui.
Ben, j'en ai pas.
Bon, ben, c'est bien comme ça. Enfin, enfin quelqu'un qui n'a pas un bon conseil à me donner.
Soignez-vous. Ça, c'est un conseil.
Oui, merci, c'est gentil. Alex Chabanis. Alors, d'habitude, je vous demande de venir pour parler des toutes les bonnes raisons qu'on a de s'opposer au traité d'Amsterdam, et notamment à la ratification de ce traité par voie parlementaire. Mais là, je trouve que l'actualité nous impose de parler d'autre chose, parce que avant de vous engager dans le combat contre les traités scélérats, les traités de qui sont pas autre chose d'ailleurs que des traités de paix avec l'occupant, pardon, vous étiez spécialiste de la formation et de la... Comment dit-on de la...
L'éducation.
Non, l'éducation des jeunes, la prévention de la délinquance en milieu jeune, etc.
Tout fait, directeur de centre social, éducateur, animateur culturel.
Éducateur. Et en ce moment, les socialistes viennent de découvrir qu'en France, il y a un problème de délinquance dans les milieux jeunes. Ce qui prouve qu'il ne faut pas désespérer parce que, vous voyez, à peu près, moi qui suis un imbécile, ça fait 35 ans que je m'en suis aperçu. Et les socialistes s'en aperçoivent aujourd'hui. Donc. Alors, quelle est votre opinion sur le discours officiel en ce moment?
Je tiens à préciser que j'ai participé en 67 au premier colloque Jeunesse et Sport qui s'appelait Prévention et Animation Globale. J'ai animé une commission qui s'appelait Jeunesse et Sport et Prévention. Et ensuite, j'ai été le premier éducateur en France à être reçu par le Haut Comité à la Jeunesse, qui était présidé à cette époque-là par le docteur Marty, en 1967. Donc, j'ai donc travaillé dans les bidonvilles avec le père Joseph, j'ai travaillé dans les cités. Quand les Français vivaient dans des cités de ce qu'on appelait le relogement, où il fallait aller chercher l'eau à la fontaine, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est il y a 20 ans. Et il s'est produit ce que nous avions prévu, ce que j'avais prévu, une délinquance qui s'est transformée, puisque son origine n'était pas socialement, culturellement et philosophiquement européenne et française. C'est une délinquance à l'heure actuelle qui se définit par un système et un langage qui s'opposent à l'éducation même telle qu'on le concevait en France il y a de cela 20 ans. Et vous voyez dans tous les débats télévisés, vous voyez une revendication permanente qui est d'ordre socialiste, qui est la même. Le rap est une revendication socialiste mise dans la bouche des immigrés, l'ouvrier français ne revendiquant plus, qui revendique les banlieues. Quelle est l'origine des banlieues? Elle est extra-européenne.
Donc, à ce propos, d'ailleurs, on n'a pas l'habitude de le faire dans cette émission, et donc je voudrais le faire exceptionnellement. Je voudrais saluer M. Paul Amar, qui, hier soir, a eu le courage d'organiser une émission dans laquelle la vérité éclatait. C'est-à-dire que c'était une émission dans laquelle il y avait à ma droite, les forces de l'ordre, et à ma gauche, les forces du désordre. Or, le fait est qu'on était obligé de constater qu'il y avait une certaine, comment pourrait-on dire, homogénéité dans la constitution des forces de l'ordre et une certaine homogénéité dans la constitution des forces du désordre. Homogénéité sur plusieurs points, notamment, moi j'étais frappé par le fait qu'il n'y avait pratiquement aucun flic qui s'appelait, les flics s'appelaient monsieur Jean-Paul Duboulin, Jean-Patrice Dugenoux, Charles Lemercier, et les autres ne s'appelaient pas comme ça. Donc déjà, ça c'est une approche de la réalité du problème qui est intéressante. Et au point d'ailleurs que Paul Amar, à force d'interpeller les différents intervenants, a dit une chose qui était tout à fait extraordinaire. Il a dit, maintenant je donne la parole à Mustapha, et je voudrais dire que je l'appelle Mustapha parce qu'il s'appelle Mustapha. Je veux le dire devant les critiques éventuelles, je l'appelle Mustapha parce qu'il s'appelle Mustapha. Donc je vous signale que on a donc le droit maintenant, en dépit du règne universel de la police de la pensée, d'appeler Mustapha les gens qui s'appellent Mustapha. On n'est pas pour autant condamné forcément à 5 ans avec sursis. C'est quand même intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, rendre hommage à Paul Amar qui a enfin dit la vérité dans son émission, c'est-à-dire que Mustapha s'appelle Mustapha, Kamel s'appelle Kamel, Rachid s'appelle Rachid, Ahmed s'appelle Ahmed, et Jean-Paul Lemercier s'appelle Jean-Paul Lemercier, et il est d'ailleurs commissaire de police dans le 19e arrondissement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous rends la parole.
C'est exact, j'ai regardé cette émission, mais le problème auquel nous assistons dans cette émission, c'est exactement ce que je dis depuis, et que j'ai écrit depuis quand même 30 ans, c'est que la France vivait selon un système de communication où les gens, qu'ils soient, on voyait les loubards quand ils choisissaient, on a eu les blousons noirs, on a eu tout ça, quand ils s'agissaient de s'opposer à la société, ils rentraient dans un ordre qui était soit la voyoucratie totale, soit on les retrouvait dans les paras, on les retrouvait, Bijard en a fait, s'est rappelé, était souvent d'anciens loubards, on les retrouvait dans une société dans laquelle quand même il y avait un langage commun. Et même l'argot, et même le langage n'était pas fait pour détruire la société, il était fait pour se parler entre soi. À l'heure actuelle, nous assistons, et nous l'avons vu dans cette émission, on assiste à une délinquance qui revendique sociologiquement un statut qui n'est pas celui d'un délinquant français, d'un délinquant italien, d'un délinquant... C'est un statut communautaire de la délinquance. Et alors, le débat auquel nous avons assisté, qui est celui qui est lié au glissement sémantique, qui a lieu aussi dans la prévention et dans l'animation, que les socialistes ont mis en place d'ailleurs, c'est que nous avons d'un côté les forces de l'ordre qui disent, ben, nous avons un rôle répressif, le rôle préventif, c'est pas à nous de le jouer. Et de l'autre côté, nous avons maintenant non pas un délinquant, mais une masse de gens qui revendiquent la délinquance comme un moyen d'expression sociologique pour récupérer de l'argent, des moyens, des subsistes, des emplois, des zones franches. Les zones franches sont un des premiers actes de non-droit des gouvernements politiques de la France. C'est un acte de non-droit dans lequel on a accordé économiquement un statut spécial à des gens qui ne voulaient pas s'insérer et s'intégrer à la société française.
D'ailleurs, en ce qui concerne les emplois, il y a un aspect qui est intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, ce système fonctionne très très bien en auto-alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont des délinquants. Et parmi ces jeunes délinquants, on prélève les moins CON pantoufles et on en fait des gens chargés de l'encadrement de la délinquance. Donc évidemment, si on met un terme à la délinquance, on va provoquer du chômage. D'autre part, on nous explique que cette délinquance, c'est aussi une forme d'économie parallèle. Hein. C'est-à-dire que parmi la délinquance, il y a du vol, du cambriollage, du trafic de drogue.
Plus loin.
Donc tout ça s'auto-alimente très bien.
C'est beaucoup plus grave que ça. Parce que
on l'a vu l'autre soir avec...
Oui, mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est une délinquance raciale, totalement raciale. Pourquoi ? Comment se fait-il qu'un éducateur français... ne puisse pas être employé dans les cités telles que nous on l'était, telles qu'on le faisait d'ailleurs. Pourquoi mettons des grands frères ? Pourquoi des grands frères ? Qu'est-ce que c'est cette terminologie sociologique employée par les socialistes de mettre en place des grands frères pour éduquer les petits frères ?
C'est des francs-max, c'est normal qu'ils parlent des grands frères.
C'est ça le gros problème qui est posé à la société française. Est-ce que la France peut encore alimenter un système de prévention et de répression qui est permanent, qui est mis en place pour qu'il dure? Alors, il y a un principe très simple dans l'éducation. Il y avait deux conceptions de l'animation à mon époque, la mienne et celle des socialistes. Celle des socialistes consistait à dire, il y a de la délinquance, on met des éducateurs permanents, et on considère que ces éducateurs seront permanents parce que la délinquance est permanente. Il y avait un anti-système qui était le mien, et qui a toujours réussi, je l'ai toujours démontré, qui était de mettre des éducateurs un temps pour que la délinquance se résorbe, puisqu'en effet l'intégration se faisait normalement, puisque la délinquance c'est pas permanent, la délinquance dans un quartier. Eh bien, nous assistons à ce qu'ont voulu les socialistes. Les socialistes ont voulu, et ça il faut bien le préciser, ont voulu en des zones de non-droit, ont voulu des zones communautaristes, à un moment donné des zones franches, qui en devaient vivre en auto-alimentation. Et en effet, on paye la société française, paye ce système, qui est un système où la prévention n'a pas cours, puisque le but s'auto, la délinquance s'auto-alimente. Le grand frère, le petit frère, la grande sœur, et alors, donc, nous avons donc un système comme celui-ci, qui s'auto-alimente, et c'est un principe basé sur la communication. Est-ce qu'en France, on va éduquer ces jeunes selon un principe de valeur, et selon un principe de relation de valeur qui est celui du peuple français? Est-ce que ces jeunes doivent rentrer, et c'était l'émission de Paul Amar, d'avancer dans un système d'éducation fondé sur les valeurs françaises telles que les transmettaient l'école privée et l'école publique en 1900? On éduquait le fils du pauvre comme on éduquait le fils du riche avec les mêmes valeurs, qu'elles soient patriotiques ou qu'elles soient sociales, morales. La morale de La Fontaine était mise à tous les tableaux. Où est-ce qu'on permet et on autorise dans des débats même télévisés ou que se concrétise la marginalisation de population, mais volontaire. La marginalisation de ces gens-là est volontaire, ils le disent. Alors ils demandent au peuple français, alors il y en a qui sont français, il y en a qui ne sont pas, mais ils demandent en fait, les uns ou les autres, ils demandent, donnez-nous de l'argent pour qu'on se réalise. Mais quand vous avez travaillé comme moi dans les bidonvilles et que vous avez sorti des bidonvilles, des gens qui sont devenus chefs d'entreprise, des gens qui sont devenus, comme je ne citerai pas le nom, mais à un moment donné responsable du service d'ordre de Le Pen, j'en citerai quelques-uns, ces gens-là sortaient des bidonvilles, mais ils n'avaient aucune aide. Quand vous avez connu ces jeunes Français qui, en effet... Et parce que je n'ai pas fait un combat, moi je suis pas un homme qui ait fait un combat dans les livres. Et quand j'ai écrit mes textes, pour l'homme dans la cité et la cité de l'homme, quand j'ai écrit que le principe de communication était en train de se détériorer en France, c'était il y a 20 ans, et que l'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a plus de système de communication, mais qu'un système mis en place, qu'un système de communication matériel, et qu'on l'on ne peut pas intégrer ces jeunes. Parce que les valeurs auxquelles ils se réfèrent, n'ont rien à voir avec la société française. Donc le décalage va être de plus en plus grand. Et les éducateurs que l'on fait sont les produits d'une éducation socialiste, l'éducation de prévention telle que le conçoivent les socialistes, où en effet on entretient en permanence la délinquance, parce que l'éducateur est fait pour durer, et la délinquance est fait pour durer, alors que la conception que nous affichions, nous, c'était que la délinquance était faite pour être résorbée. Et quand nous réussissions toutes nos expériences d'animation, que ce soit dans le plus grand centre culturel d'Europe, ou que ce soit dans les bidonvilles, ou que ce soit en tant qu'animateur d'une ville, comme à Audincourt, quand nous réussissions dans les cités HLM à faire vivre une cité HLM, c'est parce que les valeurs qui nous guidaient, et les valeurs qui guidaient les enfants, quelle que soit leur race ou leur religion, étaient celles que nous décidions, nous, Français. Eh bien, il y a une rupture définitive qui a été voulue par la socialisation des élites. Et nous assistons soit à des gens qui se désintéressent, soit à des gens qui subissent, et soit à des gens qui n'ont pas de projet d'éducation.
Mais Alex, vous qui avez vécu pendant des années, depuis 30 ans, plus même, depuis 35 ans...
En sortant d'Algérie, de la guerre d'Algérie, donc, je me suis lancé dans
depuis 35 ans, dans ces milieux-là, dans cette ambiance, de dans le milieu de cette jeunesse des cités, est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, chez nous, il y a une espèce de consensus qui s'établit, un consensus douloureux, mais consensus quand même, autour de la quasi-certitude qu'on se dirige vers une situation de guerre civile, pour des motifs ethniques, raciaux, sociaux,
oui, enfin, quelque chose.
Vous y croyez ou pas?
Oui, nous y sommes, parce que ce n'est pas possible. C'est un problème. Alors, vous lirez un texte que j'ai écrit il y a 20 ans sur la relation par le langage. Si vous éduquez des gens, voilà, pourquoi les instituteurs, les profs se cassent la figure? Parce que quand les immigrés qui sont majoritaires dans une classe, ils ne parlent pas le même langage qu'eux. Et ils ne veulent pas parler le français, c'est-à-dire apprendre l'histoire de France.
Mais hier dans l'émission d'Amar, c'était absolument frappant.
Si
des gens autour de cette table, enfin des participants à cette émission l'ont vu, mais c'était absolument frappant. Ils donnaient honnêtement la parole à des gens enfin à des policiers, puis à des gens des banlieues. Or, quand ils donnaient la parole à des gens des banlieues, à une ou deux exceptions près, dont un animateur d'ailleurs qui était à l'évidence un Français de souche, mais c'était
effrayant. Il y a eu à peu près un discours cohérent.
Il y a eu à peu près un discours cohérent, oui, qui était certainement
qui essayait justement de rentrer dans un langage de conciliation.
Oui. Si vous mais les autres,
mais c'est impossible.
Ne parlaient simplement pas la langue française. Donc ils disaient des choses dans un langage qui était étranger à tout ce qu'on sait.
Ce n'est pas la langue française. C'est pas la langue française au sens de la langue française. Comment on la pratique ici. Quand vous avez travaillé dans les bidonvilles, ou quand vous avez travaillé comme moi dans les cités de relogement, à Orly, à Bagnolet, je suis pas un ancien combattant, je suis un combattant. Et quand on a fait du rugby éducatif sur le béton, et quand
un bon moyen de l'éviter,
c'est exactement rugby touché, on apprenait à toucher. Ce plaquage
doit
quand même sur
le béton. Oui, le plaquage doit être dur. Hein.
Et, ouais. Non, mais c'est pas important. Quand on a vu ceci. À l'heure actuelle, ce n'est pas la revendication permanente. Pourquoi on va à la guerre civile? Parce que ces gens-là ont une revendication permanente vis-à-vis de la société française. Ils ont, alors, nous retrouvons Maastricht et Amsterdam, nous retrouvons par rapport à l'immigration et les textes sur Amsterdam et le travail sur la commission, ces gens ont des droits sur la société française. Ce qui est apparu dans tous les ce qui apparaît maintenant ouvertement.
C'est ce qu'a dit, il y a un jeune homme qui s'appelait Kassem, qui était là, c'était un gros costaud, etc., qui a dit, mais on est chez nous ici. C'est nous qui avons construit ce pays.
Voilà. Mais on leur dit ça tous les jours.
Voilà, ils l'ont entendu, ils ont compris.
Moi, il y a une question que je voudrais poser à Alexandre Chavanis ou à d'autres. J'ai pas vu l'émission, mais j'en ai vu d'autres et des discours comme ça. Ils finissent par être représentatifs. Je pense que Paul Amar a choisi des choses bien typées pour promotionner la vente des yaourts dans les émissions publicitaires. Hein, donc
il
a fait une bonne émission. Non, mais voilà. C'est ce que veut dire Malia.
Je ne l'ai pas vu.
Il a attiré du monde.
Voilà. Alors la question que je me pose est la suivante. J'ai entendu dans cette radio, ce sont des libres émissions, nous le savons bien, très différentes, dans l'émission de Philippe de Saint-Robert ce matin, j'ai entendu un monsieur qui commence à être connu, qui s'appelle Paul-Marie Couteau, qui préconise, enfin je caricature ce que j'ai entendu, mais ce que d'autres ont peut-être cru comprendre, préconise l'exacerbation d'un conflit franco-allemand allant jusqu'à la guerre.
Folie, ça.
Non, mais c'est ce que j'ai pensé, je le dis courtoisement, oui. Parce qu'on est Radio Courtoisie. Alors, en plus, je suis dans l'émission... Non. Couteau a dit cette chose étonnante dans une France qui n'a plus que 130, qui vise une armée de 130 000 hommes, c'est-à-dire une toute petite armée. Il dit, eh bien, nos Arabes sont prêts à faire cette guerre franco-allemande. Donc, voilà. Je posais une question. Alexandre Chabanis a répondu.
C'est du délire parce qu'on rentre. Alors, c'est ce que j'ai expliqué, mais on va.
Qu'est-ce qu'ils valent au fait ces gars-là?
Non, mais attendez. Vous les entendez, si vous les interviewez individuellement, ils vous diront nous ne sommes pas là pour construire la France. Et Monsieur Couteau se trompe psychologiquement, sociologiquement et mentalement, et c'est grave que une élite sorte des âneries comme ça, parce que avant il y avait un service national, et ce service national a disparu. Donc ce service national qui permettait une intégration militaire à peu près, c'est-à-dire à des valeurs qui étaient celles, par exemple, du service national, vient de disparaître. Mais il est évident que ces gens-là n'ont plus aucun devoir vis-à-vis de la France et des Français. C'est ce qui ressort. Et Monsieur Couteau devrait aller faire un stage de une semaine, nu, tout seul, comme moi, dans les banlieues. Eh bien, il verrait... Il resterait pas
une semaine.
Il resterait pas une semaine. Au bout d'une journée.
Tout nu, c'est une image.
Il ferait une émission à Radio Courtoisie. Il dirait, je me suis trompé. Mais qu'il fasse pas cette expérience.
Enfin, j'ai pas entendu l'émission, mais.
C'est un raisonnement intellectuel.
Mais... Connaissant Paul-Marie Couteau, enfin, pour l'écouter je connais pas personnellement, mais pour l'écouter dans cette émission, je me demande quand même s'il n'y a pas un tout petit peu d'ironie dans son propos.
Alors, mais il faut se demander.
Si je le rencontre, je lui poserai la question. Mais à mon avis, d'imaginer qu'on puisse déclarer la guerre à l'allemand, appuyé sur l'arabe, ça retarde de 85 ans maintenant. Hein. Il y a 85 ans qu'on a fait ça.
C'est le pacte.
J'attends qu'il y ait autant d'arabes de l'autre côté.
Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée du siècle.
De toute manière, ça serait une guerre arabe.
Vraiment, on va rentrer dans.
Alors, pour terminer par. En deux mots, Alex, ou trois mots.
J'avais quand même quelque chose de très
important. Ah non, mais on va parler d'Amsterdam, mais là je voudrais qu'on termine.
Je voudrais quand même que tu dises simplement ceci, qui est un texte pédagogique et psychologique, qui est basé sur le langage. Et voilà ce que j'écrivais il y a 20 ans. Et ceci se réalise aujourd'hui. Ceci se réalise. C'est cette partie-là.
Alors moi j'essaye de vous soyez Chabanis pour faire croire qu'on n'a absolument aucun... On n'a rien, on se connaît comme ça. La relation considérée comme facteur subjectif de la relation humaine. Voilà. Que le facteur, le moyen, l'intention soit objectif ou subjectif, la valeur exprimée restera pour l'individu à qui elle s'adresse une réalité ou une abstraction selon que celui-ci possède ou ne possède pas les facultés réceptives, perceptives puis expressives qui fondent toute communication. La psychopédagogie de la communication s'élabore autour d'un ordre reconnu dans le temps par ces réalités. Les facultés réceptives, les possibilités, la réalité qu'a tout individu de recevoir un ensemble d'impressions, données, messages, etc., liées à l'acquis et à l'inné. Il s'agit de traduire l'état réceptif par une équation pédagogique. Comment l'individu reçoit-il ou ne reçoit-il pas? Pourquoi l'individu reçoit-il ou ne reçoit-il pas? Et pourquoi accepte-t-il ou refuse-t-il l'inné ou l'acquis pour la partie ou pour le tout? Oui, ça c'est tout le problème de la communication avec ces jeunes gens. À partir du moment où on ne parle pas le même langage, ça devient extrêmement difficile de leur parler. Et ce qui était, et ça c'était très sensible dans l'émission d'Amar hier, parce que quand ils parlaient de justice, à l'évidence,
c'est leur justice.
C'était leur justice à eux. Et quand les policiers parlaient de justice, c'était leur. Alors c'était le même mot, mais c'était en aucun cas la même réalité.
Et c'est lié, celle liée. Les policiers parlaient d'une justice liée à l'État français.
Voilà.
Et les autres parlaient d'une justice qui devait leur être rendue par droit.
C'est ça.
Non,
c'est
ça. C'est-à-dire que les policiers n'avaient que des devoirs vis-à-vis des banlieues.
Alors, Alexandre Chouanis, avant de parler d'Amsterdam, on va, pour la première fois, je réussis, enfin, moi j'y suis pour rien, mais on réussit à avoir Jean Lécuyer, qui est notre pèlerin, qui fait Paris-Jérusalem. J'avais annoncé qu'il nous appellerait toutes les semaines, et ça fait à peu près 6 semaines que j'avais annoncé, c'est la première fois qu'on l'a apparemment au téléphone. Donc je vais lui demander s'il est, êtes-vous avec nous?
Oh, je suis là, bonjour.
Bonjour Jean Lécuyer, comment allez-vous alors?
Excellemment, excellemment.
Comment...
Je me trouve à Rome.
Ah, très bien.
Je me trouve à Rome où je suis arrivé après 50 jours de marche et 1606 kilomètres.
50 jours, 1606 kilomètres, c'est beaucoup et... quand même ça, non?
Non, ça s'est excellemment passé. Excellemment passé, sans diverses anecdotes, n'est-ce pas? Et ça s'est passé...
Vous avez quand même pu éprouver, peu de temps après votre départ, la réalité de l'insécurité en France, puisque, comme je l'ai expliqué à nos auditeurs, vous avez été...
cambriolé.
Totalement dépouillé.
Oui.
De tout ce qu'on pouvait vous voler.
Absolu. On m'a laissé l'espérance.
Oui, ça, ils ne pouvaient pas vous la prendre, mais c'est pas négociable.
Voilà. Voilà. Mais, et vous savez que c'est au diable Vauvert que j'ai été agressé.
Oui, ça
c'est quand même singulier.
Ça, c'est quand même assez rigolo. Vous avez été agressé. Alors, vous avez fait 1600 km pour aller donc de... D'où êtes-vous parti, rappelez-moi?
Je suis parti de Florentin, de ma maison,
voilà.
Qui se trouve près d'Albi, dans
près d'Albi,
le Tarn.
C'est ça. Et vous avez rejoint Rome, et vous avez été agressé et dépouillé une seule fois pendant ce trajet,
voilà.
C'est dans un endroit qui s'appelle Vauvert.
Voilà, et que l'on associe au diable.
Ouais.
C'est fichement
bon.
Interpellant.
Comprenne qui peut.
Comprenne qui peut.
Autrement, qu'avez-vous rencontré? Quels ont été les moments forts de cette première partie de pèlerinage d'Albi à Rome avant la deuxième partie qui sera de Rome à Jérusalem?
Oui. Alors, beaucoup d'aventures. D'abord, j'ai rencontré moi-même et avec lequel j'ai dû batailler, n'est-ce pas, pour continuer... pour affronter le froid, la pluie, la solitude, la misère.
Il faut rappeler que vous êtes à pied et que vous n'avez pas un sou sur vous.
Que je n'ai pas un sou sur moi, voilà. Et je suis arrivé ici avec 0 franc et 0 lire. Et j'ai mangé avec les bouts de fromage, les bouts de saucisse, les panettones qu'on a bien voulu me donner... Et j'ai dormi ou chez ceux qui m'ont accueilli ou dans la nature. Comme ce fut le cas, par exemple, à Recco dans le golfe de Gênes. J'y étais une nuit, et précisément la nuit du 21 décembre, il y avait une tempête de neige. Et la mer était déchaînée, j'ai dormi dans une cabane de plage où on change le maillot, et j'ai dormi en diagonale, il y avait peut-être 1m10 ou 1m20, et évidemment pour ma taille, ça ne convenait absolument pas.
Et parce que il faut dire aux auditeurs de Radio Fantaisie, vous êtes très grand en plus.
Comment ?
Il faut dire aux auditeurs que vous êtes grand.
Oh, 1m83.
Oui, c'est pas
mais
une petite place.
Évidemment,
dans une cabine d'un mètre dix,
ça ne convenait
juste,
pas.
Voilà.
Hein, mais je dois vous avouer que j'ai superbement bien dormi dans cette cabane de plage. La mer hurlait, le vent soufflait, la neige tombait. Mais j'avais dû marcher une quarantaine de kilomètres dans la journée. Et je vous assure que c'est une excellente thérapeutique contre les insomnies. Hein? Alors voilà un jour caractéristique. Un autre jour caractéristique, c'était le 24 décembre. Alors, 24 décembre, j'étais tout près de Carrare, j'avais dépassé Carrare, et j'arrive à Massa. Et dans cette journée, au cours de cette journée, personne ne m'a donné à manger.
Pardon, comment ça se passe? Vous demandez aux gens à manger? Comment faites-vous?
Je demande aux gens, avez-vous un vieux bout de pain, un vieux morceau de fromage? Et souvent, on me donne plus qu'un vieux morceau de fromage ou plus qu'un bout de pain. On me donne. Il n'y a pas de difficulté, c'est généralement pour me nourrir. Hein. Les gens sont très aimables. On me propose aussi souvent des sommes d'argent.
Mais vous dites aux gens, je suis pèlerin sur la route de Jérusalem, comment?
Voilà.
C'est ça.
Voilà. Et on me propose des billets de banque que je refuse. Hein, je dis non, je ne veux pas d'argent. Et on ne comprend pas. Hein. Et donc, le 24 décembre, les gens étaient sourds à mes demandes.
Esprit de Noël.
Sourd également à ma demande d'hébergement, je suis allé trouver le curé qui écoutait de la grande musique et qui ne voulait pas être dérangé, qui ne m'a pas regardé. Il a fait un signe de la main, je ne veux pas être dérangé.
Je pense qu'il aura l'occasion d'écouter longuement de la grande musique sur lui.
Oui, peut-être que
le purgatoire.
Il aura un jour, Saint-Pierre lui rappellera qu'il a manqué de charité, c'est clair. Et donc, après avoir tenté de trouver un hébergement, je suis allé à la gare et j'ai dormi. Je me suis endormi après avoir négocié avec les policiers de la gare sur une banquette de la salle d'attente. Je me suis couché vers 9h du soir et les kilomètres que j'avais parcourus, que j'avais pèleriné, m'avaient suffisamment fatigué pour trouver rapidement le sommeil. Et vers minuit, j'ai trois sans domicile fixe et vraiment très ivres. Qui viennent m'interpeller, me bousculer en me disant « ça c'est ma place, vous n'avez pas le droit de dormir ici, j'ai un titre de propriété », me disait-il. Et j'ai dû me lever soudainement, évidemment je n'ai pas eu de peine à les immobiliser, et je les ai couchés chacun sur une autre partie de la gare. Et ils se sont endormis, et j'ai pu dormir jusqu'au lendemain. Voilà, mais vous vous souvenez qu'un certain 24 décembre de l'an zéro, une très sainte Vierge Marie et un Saint Joseph étaient occupés par des situations à peu près identiques. C'est interpellant, cependant.
Oui, ça aussi. N'est-ce pas ? Effectivement, si on croit aux signes, on est un petit peu ébranlé par ça.
Voilà.
Quel a été le meilleur moment jusqu'à présent de ce pèlerinage ?
Le meilleur moment, il y en a de nombreux. Mais je vous en cite un spontanément. C'est dans un petit village du sud de Sienne. Je visite un prêtre, j'arrive là après peut-être 30 ou 35 kilomètres, et je visite le prêtre, et il est derrière sa porte quand je frappe, et il ouvre et il dit spontanément « Ah, un pèlerin bienvenu, n'est-ce pas ?» Et il m'accueille vraiment avec un grand soin et une grande charité. Et ce prêtre, n'est-ce pas, le lendemain matin, je lui demande sa bénédiction. Il m'amène, il me dit une bénédiction de pèlerin, ça doit se faire avec soin, et nous allons le faire, nous allons y procéder dans l'église, et devant la statue antique de la très sainte Vierge Marie. Et nous nous y rendons, et avant de me bénir, je lui dis, écoutez, nous allons lire, il parlait le français, nous allons lire la prière à Notre-Dame des Chevaliers. Et je n'y voyais pas très bien, et je lis avec difficulté la première ligne, et je lui demande ensuite de lire. Et ce brave prêtre, moi-même, c'était mes difficultés de pourvoir qui m'empêchaient de lire. Lui-même, c'était l'émotion qui l'empêchait de lire. Et c'est un grand moment de mon pèlerinage, n'est-ce pas? Et il a pris un soin extrême, n'est-ce pas, pour me bénir. Et c'est un grand apaisement dans mon pèlerinage. Voilà un grand moment.
Jean Lécuyer, vous, samedi, je crois que vous attendez les amis qui pourraient se rendre à Rome ou qui pourraient être à Rome. Vous avez fixé le rendez-vous il y a déjà longtemps.
Oui.
Vous les attendez dans un endroit précis. Quel est-il?
C'est devant la porte sacrée, devant la porte sainte de Saint-Pierre de Rome. Mais le rendez-vous était ce matin à 8h.
Ah, c'était ce matin? Je croyais que c'était samedi.
Non, c'était ce matin à 8h et...
Alors, est-ce qu'il y avait du monde?
Winfried Wermeling est arrivé, n'est-ce pas? Nous sommes actuellement à l'aéroport de Fiumicino, où nous sommes à l'attente de deux, trois autres personnes qui doivent arriver. Hein. Et moi-même, je suis dans la voiture pendant que Winfried Wermeling parcourt l'aéroport à la recherche de ses amis. Voilà.
Alors, la semaine prochaine, mercredi prochain, avez-vous une idée un peu approximative de l'endroit où vous serez?
Alors, je vais me mettre en route vraisemblablement vers le nord-est. Et mon objectif, c'est donc Venise, où je pense me trouver le 5 février. Et Trieste le 9, n'est-ce pas? Je serai à Dubrovnik le 6 mars. Je pense être à Titograd le 10.
Ça s'appelle encore Titograd?
Oui.
Ah, non.
Oui, à Pâques, je serai en Grèce. Et je pense être à Alexandroupolis.
C'est une bonne date pour être excellent à Alexandre.
Voilà, et ce sera la paix, hein, je l'espère, n'est-ce pas? Parce que entre aujourd'hui et Pâques, je vais traverser des contrées, évidemment, tout à fait difficiles, parmi lesquelles, tout d'abord, la Croatie, qui sera un apprentissage d'une situation d'insécurité militaire, mais évidemment, les plus grandes difficultés commenceront avec l'Albanie et le Kosovo.
Ben Jean Lécuyer, j'espère que vous pourrez nous joindre la semaine prochaine pour nous tenir au courant de la suite de votre pèlerinage. On a plusieurs appels, dont un qui est assez incongru, mais je vous le livre quand même. Savez-vous, nous dit un auditeur, comment on dit croisé en arabe? Vous êtes un peu un croisé.
Je l'ignore.
Eh bien, cet auditeur nous dit, alors sous réserve des protestations que vont élever les autres auditeurs, bien entendu, il nous dit, ça se dit un taliban. Donc vous êtes un taliban, je vous le signale, ça peut peut-être vous aider à franchir certaines régions en Bosnie. Voilà, et puis une auditrice nous dit, merci à notre pèlerin, et je prie pour lui, que Dieu le garde. Eh bien,
merci.
Nous joignons à cette prière et à ce vœu.
Je vous dis un grand merci de grand cœur.
Merci à vous.
Je dois vous dire que moi-même, n'est-ce pas, je prie le bon Dieu du moment où j'ouvre ma conscience jusqu'au moment où je l'endors, où elle s'endort, et que, évidemment, très fréquemment dans ma journée, je prie personnellement pour vous, n'est-ce pas, mais je prie également pour ceux de vos collaborateurs que je connais, et je prie pour les auditeurs que je ne connais pas, mais que le bon Dieu, j'en suis sûr, connaît.
Merci Jean Lécuyer. Alors, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien, comme on dit dans les vraies radios, enfin dans les vraies émissions de radio. Et puis, on pense tout le temps à vous, parce que ce que vous faites est magnifique.
Merci.
Merci.
Merci, que Dieu vous garde.
Que Dieu vous garde. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est quand même c'est quand même un monsieur tout à fait impressionnant. Hein.
Et c'est une belle aventure.
Une belle aventure. Ouais. Et on va revenir Alex Chabanis et à la manifestation pour le référendum sur Amsterdam un peu plus tard. Et là, je me tourne vers Daniel Raffard de Brienne qui publie donc tout récemment un livre intitulé « Pour en finir avec l'évolution ». Alors, quand il m'a apporté son livre, je dis « Alors, si je comprends bien, vous avez rallié les rangs créationnistes ». Et il m'a dit « Non, pas du tout, je ne suis pas créationniste pour autant ». Alors, j'aimerais bien savoir comment on peut être anti-évolutionniste sans être pour autant créationniste.
Je voudrais d'abord préciser une chose, c'est que le sujet peut paraître un petit peu obsolète ou étrange. En fait, il est très proche de ce que nous a dit M. Chabanis. Parce que l'évolutionnisme, il s'agit d'évolutionnisme, et si je pourrais préciser peut-être tout à l'heure la définition pour que je m'en sois bien dans le coup.
Vous voulez dire que quand quelqu'un arrive à se faire pousser un cerveau, finalement il arrête d'être instituteur,
non, l'évolutionnisme, non, l'évolutionnisme est la base pseudo-scientifique de toutes les idéologies progressistes. Marx était darwinien, Staline était lamarckien. Et parce que c'est une théorie selon laquelle il y a un progrès, tout évolue à partir de la matière brute, de données des unicellulaires qui se sont compliquées, etc. Et au bout de toute une généalogie, on arrive à l'humain. Alors mon propos n'est pas de remplacer l'évolutionnisme par ce que vous appelez le créationnisme, en fait, les positions un petit peu excessives des Américains. Ça, c'est une autre question.
Moi, je suis fondamentaliste.
Oui. Ben, moi,
vous êtes protestant, Serge de Becker.
Non, je suis fondamentaliste catholique. Ah, je pense que Dieu a créé le monde en 7 jours.
Je ne sais pas du tout comment il l'a créé. Oui, puis il a payé.
Mais
puis
comme il nous le dit,
autant. Il a fait une sieste le 7e jour. C'est oui, ça, mais enfin bon.
Je connais la facilité de Serge.
C'est pas du tout le point de vue que j'ai pris. J'ai admis, parce que les savants sont des gens sérieux, j'ai admis leur découverte. Et ce que je montre, c'est que leur découverte ne mène pas du tout à l'évolutionnisme. Ça mène à quoi? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, l'explication évolutionniste est radicalement fausse du début à la fin. Que ce soit des arguments mathématiques, des arguments philosophiques, des arguments microbiologiques, des arguments paléontologiques, rien ne montre la vérité de l'évolutionnisme.
Et j'irais même donc l'histoire du poisson qui se fait pousser des pattes pour pouvoir aller se balader sur la plage, vous ne marchez pas?
Ah, pas du tout, c'est totalement ridicule.
Tous les jours.
Ben, on a l'impression, on découvre que finalement il y a des espèces qui ont gagné le gros lot toutes les semaines et qui ont changé tout le temps, et les autres qui n'ont rien gagné du tout depuis des millions, des centaines de millions d'années.
Donc la question c'est de savoir qui distribue le gros lot.
Ben oui. Alors c'est en ça ce que vous voulez. On ne peut pas. Alors là, le titre, évidemment, est un petit peu agressif pour en finir avec l'évolution, vaste programme, je précise, avec l'évolutionnisme. Parce que quand Darwin a inventé sa théorie, il a fait des constatations aux îles Galapagos qu'effectivement, des formes assez étranges, espèces connues, gambadaient joyeusement sur les îles Galapagos.
Entre nous, il n'y avait pas besoin d'aller aux Galapagos pour s'apercevoir de ça. Hein.
Mais enfin, écoutez, je vais vous dire, ça c'est la micro-évolution qui est absolument
certaine. Argenteuil.
Mais la meilleure preuve de l'évolution, la micro-évolution, c'est ce que je fais dans mon cas, je distingue micro et macro-évolution. La micro-évolution est connue depuis toujours, la meilleure preuve c'est qu'elle est appliquée artificiellement, mais appliquée quand même avec succès, par tous les éleveurs. Le chihuahua et le Saint-Bernard viennent tous d'un chien qui ressemblait. Oui, seulement là où ça ne va pas, c'est que ça s'arrête là.
Mais l'idée de l'évolution, c'est quand même que, d'abord, il y a du progrès, et que le progrès, comme son nom l'indique, c'est aller du pire vers le meilleur. Oui. C'est-à-dire que tout changement est bon.
C'est la théorie progressiste. Voilà.
Donc dans l'évolution du lycéen, par exemple, entre Charles Maurras...
Elle est quelquefois régressive.
Charles Maurras en 1884 et un étudiant, un lycéen de 16 ans aujourd'hui, donc un peu plus d'un siècle plus tard, il y a forcément un progrès. On est d'accord là-dessus,
monsieur. Oui, il ne connaît plus ni le latin ni le grec, donc c'est probablement un
c'est
progrès.
Mieux.
D'ailleurs, le nom droit des banlieues et le rap sont des progrès discutables dans le siècle de la civilisation.
Le rap, c'est un progrès par rapport à Bach.
Le problème du progrès, il existe réellement un progrès des connaissances scientifiques et un progrès des techniques. C'est vrai, mais c'est un progrès par accumulation, c'est-à-dire que chaque génération a profité des acquis des générations précédentes. Si vous prenez un prix Nobel les plus brillants en physique et vous le collez chez Cro-Magnon, eh bien, il cassera des cailloux comme tout le monde. C'est...
Oui, mais avec plus de...
Oui, non, mais parce que Cro-Magnon ne comprendra pas sa thèse.
Plus de science.
Mais il n'aura même pas la thèse. Il n'aura pas ses thèses.
Non, mais comment Cro-Magnon va le faire bosser, casser les cailloux.
Mais parce que de toute manière, oui, mais tout de même, s'il vivait à cette époque-là, il n'aurait aucune idée de sa thèse.
Alors, c'est l'évolution progressive. Daniel, quand même... Il apparaît, quand on regarde les animaux, qu'il y a quand même une évolution, même si vous êtes contre l'évolutionnisme, il y a une évolution des espèces.
Il y a une évolution à l'intérieur des espèces qui peut, à la rigueur, provoquer des espèces très voisines. Ça, c'est vrai. Je vous le disais, c'est... Seulement, vos éleveurs qui font des chihuahuas et des Saint-Bernard avec un chien, ils font pas de chat.
Ils font pas de chat.
c'est ça, la limite. Alors, il n'est pas légitime de passer de la micro-évolution à la macro-évolution. Et c'est même, d'ailleurs, il y a tellement de preuves de micro-évolution et tellement peu de preuves que macro-évolution, que finalement, la micro-évolution prouve que macro-évolution n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui n'existe pas? J'en sais fichtre rien.
Mais pourquoi qu'est-ce qui vous empêche d'aller jusqu'au créationnisme?
Ah non, qu'il y ait une création à l'origine, ça c'est le problème, la cause première. J'ai étudié ça dans mon bouquin, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est certain qu'il y a une cause première qui est une cause sans cause, parce que toute chose qui se produit est l'effet de cause. Et ces causes sont en elles-mêmes des effets de cause. Et alors, en remontant ainsi...
Il y a un moment où ça commence.
Il faut bien que ça commence. Donc, une cause sans cause, et ça c'est la création. C'est la cause première.
Chaque fois qu'on parle du bon Dieu, on tente de faire quelque chose qu'il n'est pas. L'autre jour, on disait il n'a pas d'ombre. Il n'a pas de point de vue, il n'a pas de cause. On va peut-être finir par découvrir ce qu'il est.
Non, mais il est la cause des causes. Ce qui est frappant, excusez-moi, j'ai furieusement envie de souligner une chose, c'est que quand on a la curiosité de lire de l'origine des espèces de Darwin... D'abord, il faut quand même admettre que tout le monde en parle comme si c'était irréfutable. D'ailleurs, Pierre de Bréricsen avait un argument du même ordre contre la psychanalyse. Il disait la preuve que la psychanalyse n'est pas scientifique, c'est qu'elle est irréfutable. Donc il faut
comme l'éléphant.
Or, depuis Darwin, par exemple, il y a la génétique mendélienne qui, en effet, s'il y a des sauts qualitatifs que nous appellerons macroévolution, il faut bien, alors là, vraiment une cause, et... On retombe dans le mystère auquel nous avons pris l'habitude, avec juste raison, de l'appeler Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le caractère totalement dogmatique de ce qui est sous-jacent dans Darwin. C'est-à-dire que c'est pas du tout un scientifique, mais il dit des choses, il se peut qu'il y ait des grands singes qui soient devenus... mais depuis, il s'est passé des tas de découvertes qui pose le problème comment le code génétique s'est transformé pour passer par exemple du singe à l'homme.
Ce sont ces problèmes que j'étudie dans ce bouquin-là et qui n'ont pas de solution possible. On arrive à des choses très drôles. Par exemple, il y a un évolutionniste extrêmement connu actuellement qui s'est penché sur le fameux problème de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui a commencé? Lui, il a trouvé la poule est sortie directement d'un œuf de reptile.
L'œuf de Pâques.
Et c'est la mère qui devait être surprise.
Alors, ce que je ne sais pas très bien, c'est comment qui a commencé du
reptile. C'est un rôle de reptile. Et qui est-ce qui a fait ce miracle?
Imaginez Madame Boa qui voit sortir une poule de l'œuf.
Il n'y a aucune trace d'aucune évolution. Par exemple, l'apparition d'un nouvel organe, on n'en trouve aucune. On trouve des organes en voie de disparition.
Je me suis toujours posé une question dans l'évolution, c'est que quand vous êtes sur une plage.
Alexandre Chabanis.
Quand je suis sur une plage, j'attends toujours qu'un poisson se mette à marcher. Parce que je dis que si l'évolution s'est produite, elle doit se poursuivre.
Faut que t'attendes un
million. C'est pareil pour les singes. Quand je vais au zoo, je me dis, la vache, celui-là, il va bientôt me ressembler. Eh bien, ça se produit pas.
Moi, ça fait depuis 81, je regarde les députés socialistes et j'attends qu'il y en ait un qui se transforme en être humain. Et c'est jamais arrivé.
Mais Daniel Raffard de Brienne pose le problème un tout petit peu plus sérieusement.
Je suis à un autre niveau, peut-être. Oui, d'accord.
Me semble-t-il.
Non, mais c'est pas parce qu'on parle d'un livre sérieux qu'on est obligé d'en parler sérieusement.
Et justement, il faut lire le livre pour
Il faut donner des images sur l'évolution. Et moi, j'écrivais ceci. Termites, loups et chiens gèrent leur état d'animal, l'état définitif de leur société animale. Seule la main de l'homme, si on retire la notion de Dieu, seule la main de l'homme peut changer l'état de leur société.
Oui, mais bien sûr, quand on veut partir de l'évolutionnisme, en supposant les premières cellules vivantes, parce que là, ça devient tout à fait ridicule quand on essaie de sortir des cellules vivantes de matière inanimée. Il n'y a rien qui marche.
Exactement.
Mais la cellule vivante, d'ailleurs, c'est encore des étapes absolument extraordinaires. Mais ça donne naissance à toutes sortes d'animaux qui sont toujours survivants actuellement. Il n'y a pas eu cette sélection naturelle qu'on prétendait. Quand apparaissent les espèces animales. Par première fois, c'est une date, on la connaît, 500 millions d'années, c'est le Cambrien. Avant, il n'y a rien, on a des petites bactéries.
Moi, j'y crois pas une seule seconde.
Ah non, mais on trouve sept embranchements parfaitement aussi différenciés que maintenant. Il y a des crabes, des oursins, des méduses,
voilà,
des annélidés. Sept embranchements aussi différents que maintenant. Ce qui signifie que quand ces espèces apparaissent, l'essentiel de l'évolution est déjà fait. Or, il n'y a aucune trace de cette
espèce. Mais les fondamentalistes protestants ne seront pas d'accord avec vous.
J'ai bien les fondamentalistes protestants.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un fondamentaliste catholique, parce qu'un catholique ne peut pas être fondamentaliste par définition, puisque le fondement n'est pas... Enfin bref, ce que je voudrais dire, vous poser comme question, c'est la suivante. On a fait de Darwin le père de la théorie évolutionniste. En réalité, c'est Lamarck. Le vrai fondateur, et qui est cohérent avec son propre dogme.
Je vous dirais même qu'on peut remonter jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Tous les dogmes évolutionnistes étaient déjà exprimés par les philosophes grecs, comme Anaximène, Anaximandre, Leucippe, Héraclite, etc. Chez les latins, Lucrèce au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et tous ces gens-là ont déjà parlé de l'évolution progressive, de la sélection naturelle, etc.
Pour amener, si vous permettez un peu d'eau votre moulin. Je voudrais vous rappeler que dans la revue Dialogue, qui est diffusée par l'association CIRIS, dans un ancien numéro, nous avions parlé de l'ouvrage extraordinaire du professeur Rosine Champdebois, qui s'intitulait « Pour en finir avec le darwinisme », qui est un ouvrage, je ne sais pas si c'était extraordinaire. Mais pour remonter un peu plus en avant sur le sujet que je vais développer tout à l'heure, au niveau donc du professeur Mirko Beljanski, je voudrais vous informer que sa dernière publication, avant qu'il nous quitte, s'intitulait « L'ADN de novo ». Et ça, c'est une découverte qui aurait mérité à ce chercheur un prix Nobel. En quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'il a démontré qu'une simple enzyme, la polypeptide phosphorylase, en présence in vitro, en présence de 4 de ferférique, était capable donc d'aboutir à un ADN simple chaîne, qui va ensuite à l'ADN double chaîne. Et ça a été publié, j'ai pas sous les yeux les références Molecular International Recherche, je crois, la maison de publication, et c'est un travail tout à fait époustouflant.
Enfin, la vraie question, elle est posée aussi par les terroristes, c'est qu'est-ce qui fait chanter les 10 000 êtres? Parce que je suis frappé de cette pseudo-doctrine scientifique. Il se peut qu'on constate des évolutions, ça je ne suis pas biologiste, j'en sais rien. Même des évolutionnistes chrétiens ont essayé de s'intéresser à cette question. Mais il y a d'une part dans l'évolutionnisme, je meurs d'envie de me saisir le livre de Daniel Raffer de Brienne, parce que ce qui est terrible dans l'évolutionnisme avec un grand « et » l'isme, c'est la volonté de nous dire qu'à tout prix, il y a une évolution...
Une évolution militante.
Voilà, dogmatique, n'est-ce pas, dont il s'agit d'ailleurs de donner tout de suite l'implication. C'est que ça ne sert qu'à l'évolutionnisme social.
Vous savez, moi ça me fait toujours sourire parce que dans cet ouvrage-là qui est lié à Rosine Champdebois, il y avait une cassette vidéo que j'ai vue, qui est faite par des Américains. Et c'est extraordinaire, ça ridiculise tout cela avec un éléphant. Par exemple, vous voyez un éléphant, vous avez deux plumes qui lui poussent de chaque côté et une derrière, et puis s'envole.
Oui, ça c'est pas si ridicule. Si les évolutionnismes étaient si ridicules,
parole extraordinaire de Lorenz, qui est quand même le grand biologiste de son époque, et qui disait, quand on a vu comme moi l'infiniment petit, on se dit que derrière l'infiniment petit, il y a autre chose. Là, et il était agnostique.
Ah ben donc,
oui, probablement.
Non, mais ça, c'est pas à moi de juger.
Pour compléter ce que disait M. Madliaraki, c'est certain que, et c'est le scandale, que l'on enseigne cette théorie comme un dogme avec des schémas truqués, avec des arguments truqués à tous les enfants dans toutes les écoles.
C'est la logique socialiste.
Ça, c'est honteux, ça.
Ce que disait Malia, à mon avis, c'est ce qui fait... Enfin, c'est pas ce qui fait l'intérêt de votre livre, Daniel. C'est une partie de l'intérêt de votre livre. C'est un livre qui montre très bien comment la balançoire évolutionniste, en réalité, elle sert un objectif qui n'a rien à voir avec la connaissance des espèces ou la connaissance de l'histoire des êtres vivants. C'est tout simplement un moyen de manipuler les esprits et de convaincre le citoyen moyen que, de toute façon, tout changement est un progrès.
Oui,
tout ça. Va du pire vers le meilleur, et par conséquent, toute personne qui s'oppose au changement s'oppose par définition au progrès, et donc est un adversaire du meilleur et un complice du pire. Autrement dit, les réactionnaires méritent d'être abattus comme des chiens parce que ce sont des gens dangereux.
Et d'ailleurs, ça allait assez loin, puisque le grand conseiller de Staline, le professeur Lysenko,
excellent camarade, a fait
des expérimentations totalement truquées pour soutenir l'évolutionnisme lamarckien.
Ça, c'est encore une fois socialiste, je vous le dis.
Oui,
alors,
C'est l'endoctrinement, parce que c'est une doctrine métaphysique, ça n'a jamais été une hypothèse scientifique.
Exactement.
Je crois que pour en savoir plus, il suffit de lire Pour en finir avec l'évolution de Daniel Raffard de Brienne, c'est paru chez Perrin and Perrin. Perrin et Perrin. Il faut dire Perrin and Perrin parce que Perrin et Perrin.
Pourquoi tu ne la racontes pas? C'est monsieur Peabody, Peabody and Peabody.
Peabody, Peabody and Peabody. Non, alors Perrin et Perrin, bah, c'est un éditeur qu'on aime bien parce qu'il publie des choses merveilleuses. D'abord, il publie les livres de Michel Perrin. C'est quand même pas rien.
Et de Xavier Dor.
C'est pas mal non plus. Et puis maintenant, il publie les livres de Daniel Raffard de Brienne.
Ce qui est très bien aussi. Enfin, je n'hésite pas à le dire.
Si vous ne le dites pas, qui le dira?
Exactement.
Et en plus, qui le dira avec plus de sincérité et de conviction? Darwin, la sélection naturelle, le hasard, l'hérédité animale de l'homme et autres dogmes sur l'origine des espèces. Donc, Perrin et Perrin, c'est 46 rue Sainte-Anne, 75002, au prix de 98 francs franco.
Alors ce livre,
j'aime beaucoup dire les prix franco.
Ce livre se trouve également dans un certain nombre de librairies, comme bien sûr Lucas Diffusion.
Alors si vous tenez absolument, à faire perdre de l'argent à Perrin et Perrin, vous pouvez acheter des livres dans les librairies où ils sont vendus au même prix, mais ça rapporte évidemment moins à Perrin et Perrin, c'est sûr. Il faut jamais parler de ça, c'est un tabou là que je suis en train de violer. Mais en tout cas, si vous voulez rencontrer Daniel Raffard de Brienne et lui faire connaître votre avis, vos opinions sur l'origine des espèces et autres considérations diverses, vous le rencontrerez le samedi 16 janvier, c'est-à-dire après-demain, à partir de 15h à la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont, station Saint-Michel. Pour ceux qui prennent le métro, ceux qui viennent en voiture s'en foutent totalement. Mais je ne vous conseille pas de venir en voiture parce que pour se garer, c'est
le samedi dans ce quartier-là.
C'est soin de soi. Donc samedi 16 janvier à partir de 15h, librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont. Si vous êtes...
je signerai.
Et il sera là pour signer. Maintenant, si vous habitez la banlieue ou la province, vous écrivez directement à Perrin and Perrin, P-E-2-R-I-N et P-E-2-R-I-N, 46 rue Sainte-Anne, 75002. Vous envoyez 98 francs au maréchal Franco et vous recevez le journal de Daniel Raffard de Brienne.
Le livre.
Le journal, le livre. Je fais une fixation sur les journaux. Hein.
Et vous écoutez Radio Courtoisie où Serge de Becquet reçoit beaucoup de monde.
Alors, est-ce que les éditeurs veulent prendre la parole?
Oh, si, oui, si vous voulez. Croisés en arabe, c'est en effet taliban. Mais les arabes, lorsqu'ils parlent des croisés, disent les francs. Ils seront bientôt les seuls à parler de francs.
Les farancis.
Ce ne sont pas les socialistes qui ont fait venir les émigrés, mais les gouvernements Pompidou et Giscard. En 1992, j'ai aidé une association du type grand frère, petit frère. Mon travail consistait à traduire en bon français des rapports de bonnes actions effectuées par les petits frères en français incompréhensible. L'année d'après, le grand frère est parti avec la caisse de l'association.
Interprète franco-français.
La politique anti-délinquance socialiste est de baisser sa culotte. Une secrétaire de mairie socialiste s'est laissée insulter par un voyou sous prétexte que si elle répondait, ce serait pire. En effet, le jeune est revenu la narguer avec un copain. Taisez-vous, ne parlez pas en même temps que moi, on n'entend rien. Chut, chut. Un copain et un pitbull non muselé, et l'a remercié. Nous ne baissons pas notre pantalon et on nous respecte. Bon, alors il y en a plusieurs comme ça.
J'ai vu dans l'émission de Paul Amar hier soir, on voyait un flic qui expliquait un flic. Oui, un flic, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Alors, nous gênons pas, qui disait, mais on n'a pas le droit d'intervenir. Il racontait comment, il racontait des scènes comme ça, de gens là, comment des jeunes se livraient à des mixtions extrêmement possibles sur les chaussures du policier. Et le policier n'avait pas le droit de bouger, autrement il avait des ennuis avec sa hiérarchie.
Conclusion à propos de l'éducation nationale. En 68, il était interdit d'interdire. Maintenant, ils en prennent plein la figure. C'est bien fait pour eux.
Ils mettent des flics dans les lycées.
La prochaine fois que vous ouvrez la parole,
oh, pardon,
je vous envoie la bouteille d'eau à travers la figure.
Non,
sans ça, les auditeurs ne pourront pas...
Quelle année, la bouteille d'eau ?
Les auditeurs ne pourront pas s'exprimer. Et après, c'est moi qui me fais tirer les oreilles. Paul-Marie Couteau était ironique dans son propos, monsieur Beckett.
C'est moi qui l'ai dit, alors.
Il parlait des pays arabes en général, qui sont plus proches de la France et de l'Espagne que de l'Angleterre. Et puis il ne parlait pas des Arabes issus de l'immigration, mais des nations arabes et de la politique arabe de la France.
M. Maléraki, vous avez enduit avec de l'erreur.
Dans cette émission, il insiste, dans cette émission, on a parlé aussi de Constantinople occupée par les Turcs. Que pensez-vous de l'expérience du maire de New York qui a réussi à régler le problème de la délinquance urbaine avec des mesures finalement assez souples ou simples, je ne sais pas.
On a passé une émission dessus de 3 heures avec deux spécialistes, mais enfin...
Il faut écouter les émissions de Malia.
Ah ben voilà, je me suis venu faire de la pub pour le vendredi soir.
Il y a, alors là, une information. Il y a une vraie émeute à la gare du Nord en ce moment. Mais on ne nous dit pas pourquoi.
C'est peut-être des gens qui essayent d'attaquer le Libre-Journal.
Si vous avez des nouvelles, dites-nous tout par téléphone. Là, on vous parle des prédictions, mais vous ferez une émission là-dessus plus tard. Bon. Pont sur le Bekech. Paul Amar, c'était lundi.
Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit hier?
Vous avez dit hier.
Oui, non, parce que je l'ai regardé dans la nuit, donc c'est bien hier, vers 2h du matin.
Arajol, qui est français, se réclame de son ascendance républicaine espagnole. Lui, il est à Initiative républicaine.
C'est un initié républicain,
donc ça change
absolument.
Tout. Il ne faut pas dire délinquant, mais créateur d'emplois pour policiers, garagistes, etc., etc. Allez-vous nous parler... Allez-vous nous parler du congrès qui aura lieu les 23 et 24 janvier à Marignan? Voici ce qu'écrivait le Parisien. Oh non, c'est trop long celui-là. Hein. Vous avez parlé...
Fabuleuse,
ben non,
vous
m'avez dit qu'il fallait que j'aille vite.
Allez,
alors. Vous avez parlé, ça c'est la même chose que tout à l'heure. Serge de Beketch, peut-il nous indiquer comment on peut s'intégrer dans un pays où les gens n'ont rien à proposer, les institutions n'ont plus de projet ni même d'existence?
Non, bon. C'est pas vrai, c'est pas, ça c'est du désespoir à bon compte.
Alors là, c'est pour tout à l'heure. Donc,
bon. Alors, Gérard, en deux mots, Gérard Wedlich, enfin en deux ou trois mots, peu importe. Quelle est parce que vous êtes venu la dernière fois pour nous annoncer une bien triste nouvelle qui était la disparition du professeur Beljanski. Depuis, il s'est passé des choses nouvelles et intéressantes. C'est-à-dire que on a tout à fait l'impression que la mafia pharmaceutico-financière étant arrivée à ses fins, eh bien la justice arrête un peu ton bras, bûcheron, c'est ça ? Suspend ton bras, bûcheron. La justice a suspendu son bras. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous ça.
Ben écoutez, d'abord je vous remercie de nous recevoir encore une fois sur cette radio. Bon là je viens justement pour dans le cadre de choses juridiques, encore une fois sur Paris, vite fait. Là c'est pour la restitution de photocopieurs, de machines à affranchir. C'est du matériel insaisissable, ça, machine à franchir, matériel d'État. Les gendarmes nous ont saisi, machine à franchir. Et puis, de quantité de photocopieurs et de différences balances, des choses comme ça, parce que l'ordonnance, et c'est écrit noir sur blanc, Serge, ce matériel n'a plus d'utilité pour la démonstration de la vérité.
C'est-à-dire que pour la démonstration de la vérité dans l'affaire Beljanski, qui, je rappelle, est une enquête judiciaire montée depuis des années pour savoir si un produit a ou non des capacités dans le traitement du cancer, on a saisi des photocopieuses,
voilà,
des machines à timbrer, des machines à affranchir, voilà, et des choses comme ça. Ce qui, alors évidemment, fait partie du matériel qui est... On comprend bien que... Sans
associatif, c'est un outil associatif. Voilà. Indispensable pour faire de la communication.
Donc ce matériel a été saisi, il a été transporté dans une fourrière où il a été naturellement complètement bousillé. Et maintenant qu'il est bousillé, on vous le rend en disant, ben non, finalement, on n'en a plus
sans
besoin.
Sans aucun recours.
Bien sûr.
C'est-à-dire que demain, je vais passer toute la journée avec les gendarmes
à récupérer de la ferraille,
à récupérer donc ce matériel, et je n'ai pas le droit de faire venir ni un huissier ni un technicien. Le gendarme m'a déjà prévenu, il m'a dit si vous faites venir un technicien, je vous restitue rien du tout, vous rentrez chez vous. Alors c'est quand même incroyable.
Je rappelle qu'on n'est pas dans le Grand Reich, on n'est pas en Union soviétique à l'époque de Staline, on est en France, état de droit, président de la République, Monsieur Chirac, et Premier ministre, qui c'est en ce moment?
Jospin.
Alors, donc, ça c'était donc dans le cadre de Bonnes Nouvelles, puisque, bon, la restitution, quand même, de ce matériel, et qui suivait une autre bonne nouvelle, qui était la levée des scellés sur Saint-Prin, notre siège de l'association, le 25 septembre dernier. Alors, là encore, il y a une autre aberration. On vous scelle toute une association dans laquelle il y avait ces photocopieurs et tout ce matériel. Pourquoi l'avoir transporté dans des conditions qu'on ignore et que je vais réceptionner tout cela demain, jusqu'à Paris?
Alors qu'on aurait pu les laisser dans les locaux qui étaient sous-scellés.
Absolument. Et ouais. Qui a payé tout ça? Le contribuable. Parce que c'est le ministère de la Justice qui a payé le transport aller. Quant au transport retour, je vais voir avec les avocats, mais il semble que ça serait pour nos pieds. Alors c'est tout à fait aberrant. Au niveau d'un scandale, d'une affaire d'État comme ça, au niveau de la raison d'État, on voit vraiment que tout est permis.
Gérard, un amour, est-ce que vous aviez confiance dans la justice de votre pays?
Non, écoutez, justice, je l'écris toujours entre guillemets et je mets une minuscule.
D'accord. Non, mais c'est juste pour savoir, parce que moi, ça me sert, c'est un bon test.
Il y avait une autre bonne nouvelle récente, c'est la modification du contrôle judiciaire de Mme Beljanski. Alors ça aussi, Serge, c'est quelque chose d'innommable. Je ne sais pas comment où trouver mon vocabulaire pour voir ça. Peu de temps après donc la mort du chercheur que nous soutenions, qui est mort dans des conditions, vous savez, tout à fait inhumaines, puisqu'on a poussé cet homme qui a souffert, c'était un véritable persécution, un harcèlement pendant toute sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il a découvert, rappelons-le aux auditeurs, des nouveaux médicaments biologiques, sélectifs, non toxiques, efficaces contre cancer, sida, maladies auto-immunes. Puisque vous savez très bien que dans ce domaine-là, on ne veut surtout pas faire des découvertes parce que les intérêts des lobbies pharmaceutiques en seraient affectés.
Qu'est-ce qui va graisser la patte aux politiciens si les pharmaciens vendent plus leur matos?
D'ailleurs, à ce propos, vous ne savez peut-être pas, mais le conseiller de Bernard Kouchner, je vous en parlais tout à l'heure, puisque j'ai écrit au président de la République, et puis la lettre revient vers Kouchner. Alors je vais vous en parler tout à l'heure.
Mais il vaudrait mieux le dire tout de suite, comme vous avez commencé, vous pouvez peut-être finir, parce que là, autrement, on va.
Mais écoutez,
on va rester suspendu.
Le conseiller scientifique de Bernard Kouchner, c'est le directeur de la communication chez MSD, c'est-à-dire Merck Sharp & Dohme, qui est le plus grand laboratoire au monde, qui est cofabricant avec Pasteur Mérieux du vaccin de l'hépatite B. Comme vous avez compris
alors,
ça.
Au moins, c'est des gens qui s'y connaissent, comme ça, on est tranquille.
Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Eh bien, d'où tous les obstacles, naturellement, que nous.
C'est un peu comme si on demandait au directeur Delph de juger de la validité d'un carburant à base d'eau.
Absolument.
Il trouverait probablement que c'est très dangereux.
Alors, dans la modification donc, de ce contrôle judiciaire de Mme Beljanski, peu de temps après la mort de son époux, elle reçoit donc une ordonnance qui est libellée d'une manière. Impressionnant, je vous dis, attendu que l'information est maintenant sur le point de s'achever et que Mme Beljanski a respecté son contrôle judiciaire depuis 2 ans. Ce qui n'est pas vrai, hein, je vous dis, on s'est rencontrés les uns, les autres, on ne pouvait pas vivre dans des conditions pareilles. Bon, qu'elle vient de perdre son mari, qu'il y a lieu de faire droit, etc., sa demande, restituant pour des raisons humaines son passeport.
C'est gentil.
C'est incroyable. Alors, immédiatement, sa fille, qui est aux États-Unis, lui a adressé un billet aller-retour pour venir la rejoindre pendant toute la période de la fête. Et elle va revenir.
Madame Beljanski, avec tout le fric qu'elle a gagné et que son mari a gagné pendant des années en vendant ses produits, elle est obligée de se faire payer son billet par sa fille.
Mais oui, écoutez, vous savez, il y avait une caution épouvantable de 500 000 francs qui avait été faite à Monsieur Beljanski.
On a envie de poser la question, pourquoi retour?
Comment?
Pourquoi retour? Parce que quand on quitte le pays de la liberté, je crois qu'on doit avoir un grand soupir de soulagement.
Ben parce que vous savez, c'est le problème aussi de M. Beljanski, à savoir qu'il a été payé toute sa vie par des contribuables français, puisque c'était un jeune étudiant qui est venu de Yougoslavie. Eh bien, il était de son devoir, puisque arrivé au niveau où il était arrivé, intellectuellement, c'est une histoire d'honnêteté intellectuelle, il voulait que le fruit de ses recherches aille aux Français. Et jamais il n'a suivi le chemin de tous les autres chercheurs qui ont fait, qui sont immigrés là-bas dans Silicon Valley, comme tout le monde le sait. Au... Bon, eh bien, écoutez, maintenant, au nom de son honnêteté, vous voyez où il est, dans un cercueil, et sachez bien qu'il n'a pas emmené un seul centime dans son cercueil. Mais ce que je voulais apporter une petite précision, parce que Serge, vous voyez. Je vous remercie chaque fois de me recevoir comme ça, même quand j'arrive au dernier moment. Parce que j'ai appris par un auditeur que sur une autre émission de Radio Courtoisie, qui est vraiment une radio libre où on peut s'exprimer, il y avait quelqu'un d'autre qui était intervenu sur pour faire la promotion, dirons-nous, sur un livre. Alors, moi je dirais tout simplement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner de l'argent ? Et ce livre, dont je tairai volontairement les références, le nom de l'auteur, et qui, parce que celui-ci serait bien capable de me poursuivre, parce que c'est un procédurier, et moi j'ai pas d'énergie à gaspiller dans les polémiques stériles, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes en procès avec ce journaleux, qui fait ni plus ni moins que de l'intox, et qui fréquente et remercie à la fin de son livre, tenez-vous bien, le gendarme, officier de police judiciaire, qui a été chargé de l'exécution de la commission rogatoire, et qui a écrit dans la conclusion suivante au juge d'instruction. Il a écrit « Il serait souhaitable que les dossiers médicaux saisis, ainsi que les documents relatifs à ces essais, les courriers de malades, les fichiers adhérents malades soient détruits pour éviter la réitération des faits, mais surtout garantir le secret médical et ainsi respecter la confidentialité de ces renseignements. » Alors ça, c'est impressionnant, parce que quand vous voyez tous les témoins qui montent au créneau et que la juge refuse les témoins à décharge. Et il y a 4000 malades là qui sont derrière moi, puisque je vous le rappelle, Serge, il faut le redire aux auditeurs, je suis le premier survivant illégal du sida, puisque je devrais être mort depuis 1991. Alors messieurs, vous êtes là autour de cette table, vous pouvez pas me dire que vous avez un mourant en face de vous. J'avais un sida déclaré en 85, selon tous les grands virologues, je devrais être mort depuis fin 91, date à laquelle je n'avais plus du tout d'anticorps. Et grâce au produit Beljanski utilisé en monothérapie, ben je suis dans la forme que je suis et j'espère tenir le coup encore longtemps. Alors pour en finir,
non mais vous pouvez pas reprocher à ce journaliste d'être allé aux sources là. Il a l'information directe du gendarme qui a. Absolument. Moi simplement je savais pas que les gendarmes avaient le droit de parler. Je croyais qu'il y avait un truc qui s'appelait le devoir en réserve ou quelque chose comme ça, mais oui, dans le cadre d'une instruction. Mais enfin apparemment on a changé tout ça quoi.
Oui mais les gens, vous savez, qui fricotent avec la DST, les renseignements généraux, etc. Tout cela. Bon, moi j'ai donné. Je vais vous dire pour conclure de sur cette parenthèse, j'ai donné la parole à un adhérent qui a été très choqué par cet ouvrage et qui lui-même a fait une enquête. Et il m'a demandé de lui permettre de s'exprimer dans, comme critique dans le prochain numéro de Dialogue que j'espère faire paraître pour la fin du mois.
Alors, donc, justement, pour...
Donc cette mise au point paraîtra là et ça rassurera les quelques lecteurs ou quelques gens naïfs qui auraient pu être déstabilisés par cet ouvrage.
Alors ce dialogue, comment est-ce qu'on se le procure ? Parce qu'on me demande souvent, à vrai dire, on me demande à longueur de journée comment on peut se procurer le dialogue. Écoutez, le dossier Beljanski,
oui,
etc.
Ça, alors, c'est ce que je fais tous les jours. Parce que maintenant, vous voyez, Beljanski est mort, mais pour nous, le combat continue. Le combat continue comment ? Par de l'information massive, massive. Nous allons augmenter notre communication. Nous allons faire des conférences dans toute la France. Moi-même avec Madame Beljanski, nous sommes en train de nous équiper en matériel et nous répondrons à toutes les demandes de conférences de personnes qui les organiseront, que ce soit des associations, que ce soit des particuliers. Nous viendrons avec notre matériel et nous ferons la conférence. Ça, c'est clair. Nous allons augmenter parce que c'est un véritable crime contre l'humanité, vous vous doutez bien, Serge, on l'a déjà dit, et à Radio Courtoisie dans plusieurs émissions, de cacher des traitements efficaces contre cancer, sida, maladie grave, c'est un crime contre l'humanité. On a 16 ans de recul, je le rappelle, sur des cancers du pancréas comme Jean Le Guen, alors que vous savez très bien qu'en 2 mois, les gens meurent du cancer du pancréas. Nous avons eu sur cette antenne ici des gens extrêmement pertinents comme Monsieur Henri Boiteux qui était venu témoigner, qui était quand même directeur au CNRS et qui avait un cancer de la prostate. prostate et qui ont même plus parlé de son arthrose, qu'il avait remarqué qu'elle avait diminué, régressé, et donc qu'il est extrêmement satisfait. Et il disait une citation, vous savez, je peux la reprendre rapidement, c'est quand j'entends, c'est M. Boiteux qui parle, quand j'entends les gens de l'ARC ou ceux du SIDAction qui ramassent de l'argent par millions, en être encore à faire croire aux malades qu'il n'existe pas de médicaments fiables, alors qu'il en existe un pour le cancer comme pour le sida, qui permet de tenir longtemps, j'estime que c'est un scandale médical encore plus grand que celui du sang contaminé. C'est une déclaration de Henri Boiteux, ancien directeur de recherche au CNRS, administrateur pendant 11 ans d'un institut de recherche sur le cancer à Villejuic, le frère de Marcel Boiteux, qui était PDG président de l'Institut Pasteur, etc., puisque le nom de Boiteux résonne surtout par rapport à son frère. Donc c'était pas, comme vous l'avez dit dans d'autres émissions, un gogo, c'est quelqu'un qui... Alors nous avons comme ça 4000 malades qui ne sont pas des gogos, qui ont des analyses, qui ont des dossiers médicaux, qu'on avait condamnés et qui se portent à merveille.
Alors donc ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent recevoir Dialogue et le dossier, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Eh bien, ils doivent tout simplement, et c'est ce que nous faisons tous les jours, envoyer un carnet de 10 timbres à 3 francs à Ciris, où je suis sur l'île d'Oléron. Ciris,
c'est
C-I-R-I-S. C-I-R-I-S, Ciris.
Comme PAP1.
16 chemin de Saint James, J-A-M-E-S. 16 chemin de Saint James, J-A-M-E-S. 17 550 Dolus, D-O-L-U-S, d'Oléron. Mon téléphone, c'est le 05 46 75 39 75. C'est un téléphone répondeur fax sur lequel, d'ailleurs, ce même message est mis, puisque je ne peux plus, je vous dis franchement, je m'excuse auprès des auditeurs, je ne peux plus répondre au téléphone. Ça me représente tous les jours, je reçois à peu près une cinquantaine de courriers à répondre, de dossiers envoyés. Ces dossiers sont complets. Ils ont une information complète sur le scandale Beljanski, qui est le chercheur, qu'est-ce qu'il a fait, le complot, tout cela est démontré dans le numéro scandale Beljanski. Ils ont un autre numéro qui démontre, qui prouve par A plus B que la souveraineté n'existe plus dans ce pays, puisque nous avons écrit aux 544 députés et nous avons eu 23 réponses, si mes souvenirs sont exacts, lamentables. Des réponses de Normand, vous savez, je vais même pas revenir là-dessus, c'est nul. C'est nul.
Bon. Ils le verront.
Bon, ils recevront un résumé sur ces produits, leurs applications. Ils auront la liste des thérapeutes qui utilisent, qui pratiquent la méthode Beljanski. En somme, dans ce dossier, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir un petit moteur, dirons-nous, dans le cadre de l'information. Parce qu'il faut que nous amplifions cette information. Et moi, Serge, que je voudrais dire, vraiment, c'est important. Vous savez, Guy Béard a dit, il l'avait chanté, « Le premier qui dit la vérité doit être exécuté. » Alors, pour conclure mon propos, moi, je voudrais que vous sachiez, je ne suis pas devenu paranoïaque. Mais si demain, Serge, il m'arrivait, comme on dit, un drôle d'accident, sachez que l'on m'aura assassiné. Et avec tout ce que nous venons de vivre récemment, autour de Beljanski, cette hypothèse n'étonnera sans doute plus personne et il est temps de prendre conscience du risque encouru. Alors si cela m'arrivait, et avec les dispositions que nous avons déjà prises au niveau associatif pour décentraliser à bloc le maximum d'informations, sachez que ceux qui feraient un geste pareil n'auraient servi à rien, puisque je vais décentraliser et faire éclater cette information au niveau planétaire. On est sur Internet, on est partout sur le web et tout, et moi je compte sur le dynamisme de tous les gens qui auront reçu un dossier d'information pour le démultiplier, l'amplifier, et en somme ça me fait un bouclier pour me protéger.
C'est le Ciris, 16 chemin de Saint-James, 17 550, Dolus d'Oléron, téléphone 05 46 75 39 75. Merci Jean. Cathy ? Oui, 36 15 Libre Journal. Bien sûr, toutes ces informations sont sur le Minitel 36 15 Libre Journal. Jean-Gilles Malirakis, avant la coupure, si on pourra continuer un petit peu après. En deux mots. Vous venez de publier L'Histoire recommence toujours, donc qui est un petit ouvrage concis, fort bien imprimé d'ailleurs, moi comme je les aime. Et quelle est la genèse de cet opuscule?
Eh bien, je vais essayer d'être très bref pour dire que c'est le développement d'une conférence que le Club de l'Horloge m'avait demandé de faire à Aix-en-Provence. L'an dernier, en réponse à la thèse de Fukuyama qui s'appelle « Qui est la fin de l'histoire ». Et il en est de la thèse de Fukuyama, peut-être comme des travaux scientifiques qu'on a évoqués, c'est que tout le monde sait que c'est faux, tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde raisonne comme si c'était vrai. Et tout le monde raisonne comme si le fait que M. Fukuyama identifie 60 démocraties dans un monde de 180 pays signifiait la victoire absolue de la démocratie universelle telle qu'il la définit, c'est-à-dire de la démocratie majoritaire. Je me permets par exemple de poser le problème de la différence absolue qui existe entre la démocratie majoritaire et le système consensuel qui est, par exemple, en vigueur dans toutes les démocraties d'Asie. Hein, même le Japon ne fonctionne pas selon le principe de la démocratie majoritaire à laquelle nous pensons. Et, pour faire court, j'essaye de développer deux idées. D'une part, que l'histoire donc recommence toujours. Donc il n'y a pas de fin de l'histoire, tout finit sauf l'histoire. Deuxièmement, que s'il y a un sens de l'histoire, c'est peut-être on devrait plutôt s'interroger sur la notion d'un sens chrétien de l'histoire. Et j'essaye aussi de dire tout le bien que je pense de l'inégalité sans lequel il n'y aurait pas de progrès. Alors, je ne sais pas si c'est proche du darwinisme, ce n'est pas du tout darwinien.
C'est de l'entropie négative, donc c'est forcément bien.
Ce n'est pas convenable de le dire. Alors, je le dis le moins convenablement possible, en ce sens que... mon raisonnement est le suivant, ma démonstration, si je puis me permettre, est la suivante, c'est que il n'existe pas d'exemple de progrès matériel qui n'ait été fait au départ que par un petit nombre de découvreurs, ça tout le monde l'a en tête, mais aussi par un petit nombre de clients, par exemple. Les ouvriers franciliens rouleraient encore en bicyclette ou en draisienne s'il n'y avait pas eu des hommes à l'hispano en 1900, pour notamment financer le découvert. Bon, c'est peut-être une vision économique, mais il y a 36 autres exemples. Et voilà, donc j'essaye, j'essaye de faire une petite théorie provocatrice de l'histoire.
Mais pour publier sous forme d'un bouquin, alors que vous avez votre d'abord l'émission, puis téléphone, enfin
le petit bulletin téléphonique
dans lequel vous pouvez exposer aussi.
Ça n'a rien à voir. Le petit bulletin téléphonique quotidien que j'utilise, donc je vais en rappeler le numéro de téléphone. C'est le 08 36 68 09 56. C'est un petit commentaire quotidien.
36,
mauvaise date. 68, mauvaise date. 0. 956, c'est facile à retenir, c'est Radio Courtoisie. Bon, voilà. Le moyen mnémotechnique. Donc, c'est un commentaire quotidien de l'actualité. Alors, le quotidien, quand on fait du quotidien, mon cher Serge, on s'expose à faire de l'éphémère.
Alors, on en parle dans deux minutes parce que vous connaissez la règle, c'est la coupure de 19h30.
Bonne soirée avec nous à l'écoute de Radio Courtoisie. Voici en direct la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquetch. Il est 19h30.
Radio Courtoisie.
La radio libre du pays réel et de la francophonie.
Mmh.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1 et au Mans sur 98,8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche avec l'assistance de Marie, diffusé en direct mercredi 13 janvier de 18h à 21h, en différé jeudi 14 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Jean-Gilles, je vous ai interrompu alors que vous étiez en train de nous expliquer que le quotidien était l'incarnation de l'éphémère.
C'est-à-dire, à faire du quotidien, on
s'explose. Ça sert d'abord à tromper le lecteur et ensuite à envelopper le poisson.
Oui, c'est utile de commenter l'actualité quotidienne, j'essaye de le faire, mais il est certain que si on veut porter un regard sur l'histoire, on peut pas le faire. Par exemple, aujourd'hui, je m'intéressais à la tangentielle qui est en train de prendre Monsieur Bayrou. Je sais pas s'il laissera une trace considérable dans l'histoire, François Bayrou.
Ça, on ne sait pas, on ne peut pas savoir.
Oui.
On en a vu d'autres. Là, on parle encore de Foutite et Chocolat. Moi, j'ai jamais vu Foutite et Chocolat au cirque. Vous les avez vus?
Ah, ils étaient beaucoup plus drôles.
Ben oui, d'accord, mais enfin.
Ils étaient beaucoup plus drôles, ils ne se sont pas divisés, eux.
Oui. Ça, parce que vous, les bruits que vous entendez, c'est des chaises. Hein. Je le dis aux lecteurs qui pourraient croire qu'on est en train de se battre. En tout cas, l'histoire recommence toujours. Le livre de Jean-Gilles Maliorakis, si on pouvait le résumer en un mot, c'est politiquement incorrect. Hein. En deux mots, alors.
J'essaye, oui.
J'essaye
d'être politiquement incorrect.
Très. Constamment.
Jusqu'au bout.
Sur tous les sujets, en plus.
Je sais pas, peut-être.
Oui. Mais vous parlez de Duprat, de la mort de François Duprat.
Il y a un petit papier à propos du 20e anniversaire de la mort de François Duprat. Je veux dire que par rapport à la mort de Goldman, moi je vois ça de loin. Je constate que Pierre Goldman est un martyr de la cause humanitaire et que dès lors que c'est un nationaliste qui meurt, ça n'a aucune espèce d'importance. Quelles que soient les considérations, quand un nationaliste fait quelque chose, c'est forcément mal intentionné, c'est forcément pervers, c'est forcément parce qu'il conduisait mal sa voiture. Souvenez-vous, dans l'affaire Stirbois, on a essayé de démontrer qu'il conduisait avec une alcoolémie incorrecte, alors qu'à 3 heures du matin, il est parfaitement plausible soit de s'endormir au volant sans avoir bu, soit toute autre hypothèse. Mais
accessoirement, je peux en témoigner,
voilà que ses
pneus ne buvaient pas du tout.
Voilà. Donc, mais on a voulu le salir.
Ouais.
Dans toutes circonstances, c'est ce que je constate.
Le communiste tue deux fois. Il vous tue avec une balle dans la tête et ensuite il vous tue dans l'histoire.
Exactement.
L'histoire recommence toujours. Édition du Trident. Alors, vous êtes vendu chez... Enfin, vendu chez Jean-Gilles, votre livre.
Les ouvrages sont diffusés par nos amis de Duquesne Diffusion, dans 27 avenue Duquesne. Et puis, pour les gens qui ne peuvent pas aller à l'école militaire, j'envoie le bouquin aux gens qui envoient un chèque pour l'acheter. Mais,
Il y a un auditeur qui dit... Ah, Serge de Bekech, messieurs de Bekech et Maliorakis sont rabibochés, bravo Maigret.
Alors, quel rapport?
D'abord, il n'y a aucun rapport. Et deuxièmement, on n'est pas rabiboché parce que...
Ah non, non, surtout, je ne suis surtout pas rabiboché avec Serge Le Bécquet. Je tiens à mettre les choses
voilà.
au point.
On se
et, d'ailleurs, je pars, messieurs les anciens.
Et la haine que nous nous portons n'est tempérée que par le mépris que nous vouons.
Oui, je ne vois pas pourquoi...
Tu viens d'apprendre qu'on était fâchés.
Je ne vois pas pourquoi ni Maigret, ni Petrucciani, ni personne ne sont responsables de ma présence.
Donc, encore une fausse information. Merci Jean-Gilles, puis à bientôt.